auditeurs, bonjour. Nous vous proposons donc aujourd'hui de parler de la toute-puissance de Dieu. Alors pourquoi parler de la toute-puissance de Dieu dans le cadre de cette émission? Je dirais pour au moins deux raisons. La première, c'est que l'Écriture sainte, la Bible, nous révèle un Dieu qui est précisément tout-puissant. Alors, le philosophe français Blaise Pascal disait que Dieu seul parle bien de Dieu. Eh bien, lorsque Dieu parle au sujet de lui-même dans sa parole, il se révèle comme étant celui qui est tout-puissant. Tout-puissant dans la création, puisqu'il a tout créé à partir de rien, selon le livre de la Genèse, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Tout-puissant dans la création, parce qu'il a créé toutes choses et aussi qu'il conduit cette création et il la maintient à chaque instant dans sa providence, comme dit le livre des Actes, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mais il est aussi tout-puissant dans la rédemption, dans le salut, puisqu'il nous sauve efficacement et qu'aucune créature, dit l'apôtre Paul, ne peut nous séparer de sa main, ne peut nous arracher de la main de Dieu. Donc, la Bible nous parle de la toute-puissance de Dieu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le fameux credo, le symbole des apôtres, commence avec cette affirmation « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. » Lorsque l'Église essaie de formuler sa foi, la foi en laquelle nous devons croire, le contenu objectif de la foi, ou pour reprendre l'expression classique, la foi de l'Église universelle, lorsque l'Église s'efforce de formuler son credo, alors elle affirme cette belle et grande vérité de la toute-puissance de Dieu. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant. Alors la deuxième raison pour laquelle j'ai souhaité vous entretenir aujourd'hui de cette notion biblique et théologique de la toute-puissance de Dieu, c'est qu'il n'est pas aussi évident que cela aujourd'hui d'en parler. Beaucoup de théologiens se sont interrogés ces dernières décennies pour savoir comment il nous fallait parler de la toute-puissance de Dieu après les événements dramatiques que furent en particulier lors de ce dernier siècle les deux guerres mondiales. Comment concevoir droitement la toute-puissance de Dieu après Auschwitz? Comment aussi penser, pour rester dans l'actualité, la toute-puissance de Dieu après les raz-de-marée qui ont fait plus de 100 000 victimes le 26 décembre dernier en Indonésie, face au déferlement du mal, de la souffrance dans le monde, aux catastrophes humanitaires que les médias nous rendent de plus en plus présentes? On peut se demander comment il convient de parler aujourd'hui de la toute-puissance de Dieu. Alors certains théologiens éprouvent, il faut bien l'avouer, il faut bien le dire, un certain malaise aujourd'hui avec cette notion et du coup préfèrent ne pas en parler. Cela part souvent d'un bon sentiment car ils ne voudraient pas que les gens s'imaginent que Dieu est en quelque sorte responsable du mal qui sévit dans le monde, de la souffrance, des maladies, des diverses catastrophes qui touchent notre humanité et de tout ce déchaînement de violence qui touche nos sociétés. C'est ainsi que ces théologiens parleront volontiers de la faiblesse de Dieu pour dire que Dieu n'est pas responsable de la souffrance, de la maladie, de la folie meurtrière des hommes qu'il subit lui-même en quelque sorte, avec nous. Sans donc que la culpabilité puisse lui en être imputée. Alors que faut-il penser de tout cela? Est-il possible de concevoir la toute-puissance de Dieu à la manière de la théologie chrétienne classique, à la manière des anciens, à la manière par exemple de l'affirmation du credo, du symbole des apôtres, ou encore des réformateurs, sans rendre Dieu responsable du mal qui sévit dans le monde? Comment, en d'autres termes, concilier la toute-puissance de Dieu avec son amour et sa bonté et avec la réalité de la souffrance dans la création. Toute la question est là. Disons d'emblée que dire que Dieu est tout-puissant ne signifie absolument pas, selon la théologie classique, qu'il est un Dieu arbitraire, ou que cette toute-puissance serait arbitraire. Et je cite ici le professeur Paul Wells de la faculté de théologie réformée d'Aix-en-Provence, dans son commentaire du symbole des apôtres, qui dit ceci: « Face à notre petitesse, la Bible présente un Dieu tout-puissant. Ce mot ne doit pas suggérer l'idée de puissance arbitraire et aveugle. La puissance de Dieu n'a rien de commun avec celle des tyrans totalitaires qui jalonnent l'histoire de notre siècle. La puissance du Dieu de la Bible est influencée dans ses manifestations par la nature éthique de Dieu. Dieu est puissant pour sauver ceux qui croient en lui. Dans sa fidélité, il accomplit toujours ses promesses. Son amour est puissant car rien ne peut le mettre en échec. » Et il poursuit en disant: « Pour Dieu, rien n'est impossible, sauf les projets et les actes contraires à sa nature. Oublier ses engagements, être infidèle, mentir, pratiquer la méchanceté ou ne pas être toujours le même, le possible pour nous est impossible pour Dieu. » Fin de citation. Ainsi, pour la théologie classique, l'important, au fond, c'est de ne pas dissocier la toute-puissance de Dieu de son amour et de sa justice. Et c'est ce que fait d'ailleurs remarquablement le symbole des apôtres lorsqu'il affirme « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». En effet, le Dieu qui est Tout-Puissant, c'est le Dieu qui est Père, selon le symbole des apôtres. C'est le Père qui est Tout-Puissant, qui est le Tout-Puissant. Le Dieu de la Bible est d'abord le Dieu Père, non pas le Dieu des philosophes et des savants, non pas le Dieu solitaire et totalitaire de l'islam, non pas le Dieu silencieux et lointain des déistes, mais bien le Dieu Père, le Dieu qui est amour et qui donne la vie à tous. Et c'est ce Père-là, notre bon Père céleste, le Dieu qui est toute bonté, toute sagesse, tout amour et toute miséricorde, qui est tout puissant. Et nous reviendrons plus longuement sur ce point dans un instant. Alors que faut-il comprendre maintenant par cette notion de la toute-puissance de Dieu? Eh bien, le catéchisme de Calvin nous éclaire. À la question « Quel sens donnes-tu au mot tout-puissant ?» Calvin répond « Il ne signifie pas qu'il aurait un pouvoir qu'il n'exercerait pas, mais qu'il a toute chose en sa puissance et dans sa main. Sa providence gouverne le monde par sa volonté, il commande à toutes les créatures selon son bon plaisir. » Et encore, ainsi sa puissance n'est jamais inactive, au contraire, tu te représentes Dieu toujours à l'œuvre, la main à la tâche, en sorte qu'il ne se fait rien que par lui et sur son ordre. Alors je relèverai trois aspects que le catéchisme de Calvin met bien en évidence dans sa définition de la toute-puissance de Dieu. Tout d'abord, la puissance de Dieu, nous dit Calvin, n'est jamais inactive. Cela signifie que Dieu règne effectivement sur toute chose, sur toutes les créatures, à chaque instant, sans jamais prendre de repos, sans jamais se retirer de sa création à la manière du Dieu des déistes qui, après avoir remonté la pendule du monde, s'en est allé, laissant ainsi sa création livrée à elle-même. Le fait que Dieu soit tout-puissant implique au contraire que Dieu exerce effectivement son pouvoir, son autorité, sa puissance sur toute chose et à chaque instant, de sorte que rien ne se fait dans le monde sans sa volonté, que rien n'échappe à sa toute-puissance. Et c'est là ce que la théologie traditionnelle appelle la providence de Dieu, dont nous parlerons plus longuement lundi prochain. Comme le dit Calvin, sa providence gouverne le monde par sa volonté, il commande à toutes les créatures selon son bon plaisir. Et ailleurs il dit ceci: les événements, quels qu'ils soient, relèvent de la providence de Dieu. Alors la Bible nous livre de nombreux passages où il est question de la toute-puissance de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons lire dans le livre des Psaumes, 115, verset 3, « Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Dans le livre des Proverbes, 21, verset 1, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » De même, dans l'Évangile selon Matthieu, il est dit que les cheveux de notre tête sont tous comptés, et qu'il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Nous voyons par là que la toute-puissance de Dieu concerne jusqu'au plus petit détail de notre vie, et s'exerce sans même que nous en ayons toujours conscience sur toutes les créatures et sur tous les événements de l'histoire. Alors le second aspect de la toute-puissance de Dieu que je voudrais relever avec vous, c'est l'aspect moral dont nous avons déjà parlé. La question qui se pose ici est de savoir si la toute-puissance de Dieu signifie nécessairement que Dieu peut absolument tout, que sa volonté ne connaît aucune limite, aucune borne, de sorte qu'aucun principe, aucune valeur morale ne saurait lui faire obstacle. Alors à cela, le catéchisme de Calvin répond « Sa providence gouverne le monde par sa volonté. Il commande à toutes les créatures selon son bon plaisir. » Remarquez qu'il n'est pas seulement question ici de la providence de Dieu en tant que pouvoir absolu, mais bien aussi de sa volonté et de son bon plaisir. « La puissance de Dieu, sa providence, s'exerce selon sa volonté, » dit Calvin. C'est-à-dire selon son bon plaisir qui est la norme de toute justice et de tout bien, d'après l'Écriture. Le fait que Dieu soit tout-puissant n'implique pas nécessairement que Dieu peut tout faire, absolument tout, y compris donc enfreindre ses propres lois. Les théologiens disaient autrefois, à juste titre, que Dieu n'est pas ex lex, Dieu n'est pas sans loi. Il n'est pas en dehors de la loi qu'il a lui-même fixée selon sa propre nature. La toute-puissance de Dieu n'implique en aucune façon que Dieu agisse de façon arbitraire, comme s'il n'était que puissance, et non pas aussi sagesse et vérité. La toute-puissance de Dieu signifie que Dieu peut tout faire, certes, mais voilà, en accord avec sa nature, en accord avec sa volonté, qui est la règle de toute justice et de tout bien. Donc, en un certain sens, selon la Bible, Dieu ne peut pas tout faire. Par exemple, Dieu ne peut pas pécher. Dieu peut tout faire, certes, dans le sens où il n'y a rien au-dessus de lui pour l'empêcher d'agir selon sa volonté, pour contrecarrer ses plans, mais Dieu ne saurait exercer sa toute-puissance en désaccord avec sa nature et sa volonté, en désaccord avec sa loi, de façon arbitraire. Car Dieu lui-même n'est pas sans loi. Mieux, il est loi à lui-même. Dieu est loi à lui-même et il agit toujours en conformité avec sa nature même, c'est-à-dire selon la sagesse absolue, le bien absolu. Alors voilà pourquoi aussi nous pouvons avoir l'assurance en tant que chrétiens que Dieu agit toujours pour le mieux envers nous et vis-à-vis de l'humanité tout entière, comme il est écrit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors dernier point, c'est le troisième aspect que je voudrais souligner, et c'est le fait que la toute-puissance de Dieu ne doit jamais être séparée de la paternité de Dieu. Car c'est le Père qui est tout-puissant, selon le symbole des apôtres, et non pas le despote, le tyran, ou je ne sais quel souverain totalitaire, comme nous en a fourni, hélas, le siècle dernier. Dieu est tout-puissant, certes, mais il n'en est pas moins Père, ou plutôt, il est d'autant plus Père qu'il est tout-puissant, et il est d'autant plus tout-puissant qu'il est Père. Et c'est en tant que Père que Dieu est tout-puissant. Voilà pourquoi aussi on peut s'approcher de Dieu avec confiance, car nous savons bien que celui-ci n'exercera jamais sa toute-puissance contre nous pour nous nuire, mais bien pour nous bénir et nous maintenir dans son amour paternel, dans son amour de Père. Comme le dit Paul dans son Épître aux Romains, chapitre 8, verset 38, « Aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Pourquoi cela ? Eh bien, tout simplement parce que l'amour de Dieu envers nous n'est autre que l'amour du Père Tout-Puissant en qui nous croyons. Nous sommes, en tant que croyants, entre les mains du Père Tout-Puissant. Notre vie repose entre ses mains, de sorte qu'aucun danger ne peut nous atteindre, aucune épreuve ne peut nous être infligée sans sa volonté paternelle. Alors, il y a là véritablement un mystère, mais par-dessus tout, une source inépuisable de consolation, dans la vie comme dans la mort. Car, comme le dit le catéchisme de Heidelberg, toutes choses ne nous viennent pas du hasard, mais de sa main paternelle. Alors voilà, lundi prochain, nous parlerons plus précisément de ce que les théologiens ont nommé la providence de Dieu, qui est l'un des aspects de la toute-puissance de Dieu, qui a donc fait l'objet de notre étude aujourd'hui. Au revoir.
Eh bien, merci Vincent Bru pour votre commentaire sur la toute-puissance de Dieu.